Chapitre 35. Route du Kazakhstan, Samarcande.
Qu'est-ce que vous fichez ?
Cléo avait freiné, puis arrêté son vélo sur le côté de la route, sous un pommier décharné. Elle avait parcouru une bonne centaine de mètres en quelques secondes, sans tomber.
Allez !
Insista-t-elle à l'adresse de Lilio.
C'est tout de même pas compliqué !
Le journaliste n'était toujours pas parvenu à démarrer. Il avait simplement assis ses fesses sur la selle, posé le pied droit sur une pédale, mais ne semblait pas comprendre comment on pouvait lever un second pied sans tomber.
« Appuyez sur les pédales !» expliqua Cléo. « Ça avance tout seul ensuite !»
Le journaliste hésitait. Il regarda successivement son vélo, Cléo, avec méfiance, et demanda.
« C'est vraiment la première fois que vous grimpez sur ce truc de fou ? Et vous y êtes arrivé du premier coup ?»« Évidemment, il suffit de se lancer. C'est à la portée d'un enfant de 4 ans !»
Lilio tenta de soulever son second pied, mais le vélo tanga et il le reposa aussitôt.
« Vous vous foutez de moi ?»
Cléo éclata de rire.
« Et moi qui vous prenais pour un aventurier ? Le reporter le plus célèbre de la Terre entière, celui qui va révéler au monde l'existence des assignés, est incapable de grimper sur un vélo !»
Elle chevaucha à nouveau sa bicyclette, avança de quelques mètres au ralenti, pédale bloquée, et dans un équilibre parfait sans mettre pied à terre, interpella le journaliste.
« En selle ! Si on ne traîne pas, on peut avaler les 100 kilomètres jusqu'au Kazakhstan en moins de 6 heures et trouver un endroit pour y dormir avant la nuit. »
Lilio, vexé, décida de se lancer.
Il poussa sur le guidon avec détermination et réussit enfin à poser ses deux pieds sur les deux pédales. À appuyer, elle tournait. Il moulina 3 mètres, agitant le guidon dans tous les sens, réussit encore à conserver son équilibre 10 secondes sous les encouragements amusés de Cléo, avant de filer tout droit vers le fossé.
Lilio eut juste le réflexe de freiner avant de passer par-dessus le vélo et de s'écraser, tête la première, dans le parterre d'herbes, d'orties et de ronces. Il se releva en grognant, tandis que Cléo éclatait de rire.
« Pas mal pour un premier essai. Allez, on recommence !»
Lilio hésita à donner un violent coup de pied dans le vélo tombé dans l'herbe. Il frotta ses bras écorchés, puis, vaillamment, redressa sa bicyclette et la repositionna sur la route. Il ordonna le silence et se relança. Il parvint, cette fois, à parcourir une bonne trentaine de mètres avant de terminer sa course dans un buisson d'épineux planté sur le bord de la chaussée. Cléo, en 3 coups de pédale, l'avait rejoint. Elle n'afficha aucune compassion pour le journaliste allongé sur le bord de la route, pantalon et chemise déchirés.
« Faites un peu attention. Vous allez finir par voiler la roue. C'est fragile, ces pièces de collection. « Moi aussi, je suis fragile, figurez-vous. »
Il se redressa néanmoins persévérant et releva le vélo, sans doute motivé par sa progression de 30 mètres entre ses 2 premiers essais. Cléo l'encouragea en l'applaudissant. Lilio la regarda, agacée, s'éloigner sur la route, puis se rapprocher après un impeccable demi-tour.
« Ne venez pas me faire croire, ronchonna le journaliste, que vous êtes une surdouée qui possède un sens inné de l'équilibre. Jaloux !»
Lilio ne renonça pas. Il multiplia les essais sur la route déserte, tomba encore 10 dizaines de fois, mais en limitant la gravité des accidents. Il commençait à anticiper, savoir ralentir, freiner dès qu'il prenait trop de vitesse. Au bout d'une heure, s'il n'avait pas avancé de plus d'un kilomètre, Lilio était désormais capable de rester sur sa selle et de pédaler sans tomber. Ils parcoururent ainsi un second kilomètre entier, sans s'arrêter.
« Bravo, monsieur le grand reporter !» le félicita Cléo. « 1 heure pour apprendre à trouver son équilibre, c'est plutôt une bonne moyenne, même si la plupart des enfants de ma classe y parviennent en quelques minutes. Vous apprenez à vos élèves à faire du vélo. Ils adorent.
Ça figure au programme de l'histoire des déplacements défini par l'Organisation mondiale de l'éducation. Plutôt que les visites au musée, mes élèves préfèrent généralement les interventions des animateurs qui leur apprennent comment on se déplaçait avant. Vélo, roller, skate, trottinette. Et, évidemment, ces animateurs prévenants se font un devoir d'initier à ces vieux moyens de transport non seulement les enfants, mais aussi leur charmante maîtresse. » Cléo se mit en danseuse, agitant ses jolies fesses sous le nez de Lilio. Elle resta un instant à l'arrêt, en équilibre sur son vélo, puis démarra soudain.
« Allez, Oust, c'est parti! On ne s'arrête plus! On doit être au Kazakhstan avant la nuit !»
Après 40 kilomètres, les rôles s'étaient inversés. Ils avaient quitté depuis longtemps les vergers bordant les rives de la Moudaria pour s'enfoncer dans une longue route poussiéreuse qui traversait un interminable désert de cailloux. Cléo commençait à fatiguer, alors que Lilio pédalait avec entrain.
ils n'effectuaient que de brefs arrêts pour boire et vérifier leur position sur sa tableta. Ils progressaient à près de 15 km/h sur la route goudronnée, quasiment plate. Lilio avait calculé qu'il franchirait l'ancienne frontière kazakh, s'il gardait le même rythme, dans à peine 4 heures. « Et ensuite ?» avait demandé Cléo lors d'une courte pause, reprenant son souffle. « Ensuite, on trouve un endroit pour passer la nuit, on mange, on dort et on continue. Le Kazakhstan, je vous le rappelle, c'est 3000 km de longueur. À raison de 100 km par jour, on peut le traverser en un mois. À moins qu'on trouve les assignés avant. Quelques centaines de types à pied, éparpillés sur 3 millions de kilomètres carrés, faut pas rêver. Peut-être qu'ils se promènent eux aussi à vélo ? Je crois pas. Il y a que vous pour avoir des idées aussi cinglées. Allez, en selle, faut pas traîner. »
Cette fois, c'est Lilio qui s'était dressée sur ses pédales, en danseuse, ses fesses moulées dans son pantalon de toile beige, son dos trempé sous le sac à dos où il transportait, comme les plus précieux des trésors, les centaines de TPC volés à Tan Prao. Cette fois, ce fut Cléo qui soupira.
« Qu'est-ce qu'elle fichait là ?»«
Je n'en peux plus !»
Ils avaient parcouru plus de 90 kilomètres, mais les derniers avant d'entrer au Kazakhstan s'avéraient particulièrement pénibles. La route, toujours aussi plate, traversait un étrange désert blanc.
« On dirait que l'air est salé !» gémissait Cléo. « J'ai la gorge en feu, ma peau brûle, mes yeux me piquent. J'ai l'impression d'être un vieux bout de ferraille oxydé. Comment, à des milliers de kilomètres à l'intérieur des terres, l'air peut-il être aussi iodé ?»
Sans cesser de pédaler, mais à bout de force, Cléo jeta un regard là sur les vastes étendues planes alentour. Les montagnes qui fermaient l'horizon devant eux paraissaient reculer au fur et à mesure qu'ils roulaient.
« On traverse l'Aralkoum, » expliqua Lilio, « l'un des déserts les plus récents du monde, et l'un des plus dangereux. À l'endroit exact où l'on pédale s'élevait il y a moins d'un siècle une mer intérieure, la mer d'Aral, la quatrième du monde en superficie. En moins de 20 ans, la mer a disparu, asséchée suite au détournement des fleuves qui l'alimentaient, pour produire intensivement du coton tout autour. L'une des plus grandes catastrophes écologiques du siècle dernier. On a pu sauver la partie nord de la mer, la petite mer d'Aral, mais pas la principale au sud, celle sur laquelle on roule. »
Cléo observa encore les terres craquelées qui les entouraient à perte de vue. Elle peinait à croire qu'une des plus grandes mers du monde ait pu s'étendre ici. Une nouvelle fois, l'inconséquence des hommes, avant qu'on invente la téléportation humaine et que des solutions environnementales globales soient adoptées pour sauver la planète, la sidérait. Qu'est-ce que ces fameux assignés, si jamais elle les trouvait, auraient à répondre contre ce simple argument ? Sans une terre fédérée par un seul gouvernement, comment protéger l'environnement ?
Récent, je comprends, demanda Cléo, peinant de plus en plus à tourner ses pédales. Mais pourquoi dangereux ? L'Aralkoum est aujourd'hui entièrement soumis à l'influence des vents. Des tempêtes de poussière qui se déclenchent sans prévenir, des nuages de sel et de sable pollués par les engrais et les pesticides massivement utilisés il y a 100 ans. On en a retrouvé des traces jusque dans le sang des manchots en Antarctique.
« Charmant !»
se contenta de commenter Cléo, économisant son souffle.
« J'ai tout de même une bonne nouvelle !»
Lilio, de plus en plus habile sur son vélo, ne tenait plus son guidon que d'une main.
« Selon ma tableta, nous sommes entrés au Kazakhstan. Nous sommes donc officiellement en territoire assigné. Concrètement, ça change quoi ? Les frontières ont été abolies depuis la constitution de 2058, vous savez ? Ça change au moins que l'on peut se reposer dès que l'on aura trouvé un endroit pour passer la nuit.
Ici ? »
Cléo scruta désespéré les infinies étendues de pierres salées et de terres polluées. Rien, à des kilomètres à la ronde, ne semblait pouvoir fournir le moindre abri. Et il était désormais impossible d'utiliser leur TPC. Toute téléportation, une fois au Kazakhstan, dans l'immense territoire prison des assignés, était interdite, pour y entrer comme pour en sortir. La seule solution raisonnable aurait été de rebrousser chemin jusqu'en Ouzbékistan. Tout ce chemin pour rien.
« Oui, » confirma Lilio. « Ici. Regardez !»
Cette fois, il freina et descendit de son vélo. Cléo en fit de même. Le journaliste lui montra une photo insolite sur sa tableta. Un bateau rouillé, posé en plein désert.
On en trouve quelques dizaines échoués sur cette mer de sable. Ce sont d'anciens bateaux de pêche, mais qui nous fourniront un refuge. D'après les coordonnées géographiques, cette photo a été prise à moins de 10 km d'ici.
Cette perspective activa chez Cléo un regain d'énergie.
Qu'est-ce qu'on attend alors ? Pédalons ?
Enfourchant sa bicyclette, elle examina le ciel avec inquiétude. Il s'était obscurci, le vent se levait.
Pour l'instant, il soufflait de côté, mais il pouvait tourner, et de toutes les façons, de face ou de dos, il charrierait cette poudre toxique qui leur empoisonnerait la bouche, le nez, les poumons. S'il n'atteignait pas tant l'arche rouillée de la mer d'Aral. Le vent soufflait de plus en plus fort. Si ça n'était pas encore la tempête, les bourrasques étaient suffisamment puissantes, acides, corrosives, pour les empêcher de respirer. Cléo et Lilio avaient enroulé des écharpes autour de leur visage, formant des turbans d'où ne dépassaient que leurs yeux. Mais les particules de poussière polluée s'infiltraient tout de même, incendiant leur palais et leurs narines à chaque respiration.
« Plus que 2 kilomètres !» s'encourageait Lilio. « On n'y arrivera jamais !»
Cléo était prête à abandonner, à lâcher ce vélo de malheur, à tenter malgré tout d'appuyer sur son TPC. On ne sait jamais. Peut-être que quelqu'un sur Pangaea ou n'importe où ailleurs dans l'univers entendrait son appel. À quoi rimait de se laisser mourir en plein désert? Seul un semblant d'orgueil la faisait encore tenir. Pourquoi? Qu'espérait-elle? Et même s'ils atteignaient ce bateau, quel espoir leur restait-il? Ils n'avaient quasiment plus rien à boire. Ils avaleraient 2 capsules, ces pastilles énergisantes infâmes qui avaient pour unique mérite de remplacer un repas entier. Ils s'endormiraient. Et ensuite? Il recommencerait à pédaler, assoiffé, sans autre objectif que de tourner en rond dans ce désert sans vie. Au petit bonheur, au grand malheur.
« Je vais craquer !» lâcha Cléo. « J'y arrive plus, j'arrête !»« Il est là, devant nous !»
s'époumona Lilio. Effectivement, derrière les brumes brûlantes, apparaissait une forme sombre couchée sur les vagues de sable. Un vieux chalutier. À plus 1 kilomètre. Cléo ne renonça pas avant d'atteindre le chalutier rouillé. Les dernières centaines de mètres lui parurent plus longues que tous ceux qu'elle avait parcourus pendant toute sa vie. Elle fermait presque entièrement les yeux pour affronter les particules de poussière qui dansaient devant elle, plissant ses paupières en meurtrière. Lilio s'était positionné devant elle, tentant comme il pouvait de l'abriter du vent. Ils y étaient. Cléo laissa tomber son vélo, Lilio aussi. Ouvrit les yeux. Au sel du sable se mêla le sel de ses larmes. Tout était fichu. De toutes parts, la coque du chalutier était trouée. Les années avaient fini par éroder la coque. Le bateau ne fournirait aucun abri contre la tempête de poussière. Il ne pourrait pas dormir ici. Il ne pourrait même pas tenir 5 minutes de plus. Cléo, désespérée, attrapa le regard triste du journaliste.
« Au moins, on aura essayé !»
fit-elle d'une voix désolée. Elle appuya sur le TPC à son poignet. Rien ne se passa. Qu'avait-elle espéré? La couleur avait été annoncée. Ce foutu désert était un piège où personne ne pouvait se téléporter. Qu'avait-elle cru? Elle avait été prévenue. Elle allait mourir là. Cléo hurla.
« Attendez !» cria Lilio presque aussi fort qu'elle. « Attendez juste 2 minutes !»« Il se passe quoi dans 2 minutes ? Vous avez rendez-vous avec les assignés ? Ils apportent des tentes, des combinaisons de survie, des parapluies ? Ils devraient... On en aura peut-être besoin !»« Besoin de quoi ? De parapluies !»
Le désert les entourait, seulement le désert à perte de vue.
« Vous êtes malades ! »
La poussière incendiait les yeux de Cléo. Rien ne semblait pouvoir arrêter les bourrasques. Le ciel était désormais noir, comme charriant des nuées d'insectes armés de milliers de dards.
« Malade, peut-être !» confirma Lilio. « Mais prévoyant ! J'ai consulté les bulletins de l'Organisation mondiale du climat avant de partir. Tout est écrit à la page météo de l'Independiente Planet. Un excellent journal, fiable, bien informé. Accélérez !»
pesta Cléo en crachant le sable qui entrait dans sa bouche à chaque mot prononcé.
« L'OMC déclenchera la pluie sur toute la région de l'Aral Koum à Astana pendant 5 heures, dans exactement 1 minute !»
Cléo leva les yeux au ciel. Elle compta les secondes dans sa tête, incrédule. 1 à 30. Le sable continuait de la mitrailler. 30 à 60. Ne pas renoncer. Une première goutte tomba, puis une autre, puis beaucoup d'autres. Puis une pluie entière, violente et soudaine, chassant la poussière, éteignant la tempête, alourdissant les grains de sable pour les coller en gadoue à la terre. Après avoir ouvert les yeux, Cléo ouvrit la bouche. Elle déroula son turban et but la pluie à pleine gorgée, plein ciel. Lilio en faisait de même. Ils étaient trempés. Ils étaient vivants. Ils étaient sauvés. Sans réfléchir, Cléo se jeta dans les bras de Lilio.
« Vous êtes un génie, monsieur le grand reporter. Je vous... »
Et sans davantage réfléchir, elle l'embrassa. Ils restèrent ainsi bouche collée, corps serré sous l'averse ardente. Cléo tremblait de peur, de froid, de joie. Elle ne voulait pas lâcher cet homme. Elle avait besoin de gestes tendres, de réconfort, tout autant que de quelque chose de fort, de l'alcool ou de l'amour. L'ondée tombait toujours avec la même intensité. Chaude. Elle tomberait ainsi pendant 5 heures. On pouvait faire confiance à l'OMC. Les mains de Cléo s'accrochaient au dos de Lilio, à sa chemise trempée de sueur, de sable et de pluie. Elle aida le journaliste à la faire passer au-dessus de sa tête, alors qu'à son tour il déboutonnait son corsage, bouton après bouton. L'averse bienfaisante lavait leur corps nu. Leurs deux pantalons finirent gisant dans la boue comme une peau de bête à 4 jambes, noyée. Ils s'embrassèrent encore, alors que Lilio dégrafait le soutien-gorge de Cléo. Ses seins jaillirent. Lilio les embrassa, lapant l'eau douce perlant à ses tétons. Sa langue s'enhardit, suivit les gouttes qui coulaient du cou au ventre de Cléo. Il voulait toutes les avaler. Il s'agenouilla et baissa dans le même mouvement la culotte de la jeune femme, continua de la boire, en pénitant, longtemps, avant que Cléo ne l'invite à se relever et qu'à son tour elle s'accroupisse, fasse glisser son caleçon détrempé et se relève pour coller son corps à celui du journaliste. Ils restèrent ainsi, fouettés par la pluie, fouettés par le désir.
« On va devoir attendre 5 heures avant que nos habits sèchent »,
chuchota Lilio à l'oreille de Cléo.
« L'OMC ne se trompe jamais. Comment va-t-on pouvoir s'occuper ?»
Cléo ne cessait d'embrasser tout ce qui passait à portée de lèvres, un lobe, une narine, une paupière.
« Commencez par se coucher »,
suggéra-t-elle.
« Vous avez raison, ce sera plus discret. Peut-être que les assignés nous regardent. »
Cléo le laissa s'allonger le premier avant de se coucher sur lui.
« Personne ne nous regarde, monsieur le grand reporter. Nous sommes dans le désert. » Dans le seul et unique véritable désert sur Terre. La seule zone de tout l'univers où personne n'a le droit de se téléporter pour venir nous mater.
Et sous l'averse qui redoublait de puissance, Cléo se redressa, invitant le journaliste à saisir ses seins trempés à pleine main, alors qu'elle s'asseyait fiévreusement sur son désir dressé.